Suivez Priorité Santé. Téléchargez MySounou pour souscrire ou gérer vos assurances et MySounou Bank pour votre compte bancaire.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie dont le nom n'est pas forcément connu du grand public, la leptospirose. Au départ, ce sont les mammifères, en particulier les rats, qui sont porteurs de cette bactérie. La maladie peut être transmise à l'être humain, en particulier dans l'eau douce, souillée par les urines des rongeurs. Les propriétaires de chiens sont plus familiers avec la leptospirose, car pour cet animal domestique, une maladie à la fois courante et grave, eh bien, la vaccination canine est fortement recommandée. Chez l'humain, la maladie est souvent bénigne, mais l'on dénombre près d'un million de personnes qui développent tout de même chaque année, à l'échelle planétaire, une forme grave. Et toujours d'après l'Institut Pasteur, 60 000 y succomberaient. Les formes sévères sont particulièrement redoutables pour les reins, pour le foie. Alors, quels sont les symptômes de la leptospirose et quels sont les signes qui doivent alerter sur une possible forme grave? Sur quoi repose le diagnostic et la prise en charge? Si vous avez des questions pour nous appeler, le numéro WhatsApp de l'émission, c'est le 33 7 71 18 46 41. Et il sera largement question au cours de l'émission de la prévention. On va donner la parole à deux spécialistes de cette maladie. En studio avec nous, Mathieu Picardeau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de l'unité biologie et spiroquette du Centre national de référence de la leptospirose à l'Institut Pasteur à Paris. On va retrouver tout à l'heure en ligne d'Abidjan Stéphane Coffi, enseignant-chercheur à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, maître de conférence agrégé à l'Université Félix Houphouët-Boigny, Stéphane Coffi, qui est aussi chef du service de bactériologie du CHU de Trècheville. Et en fin d'émission, on va parler activité physique et santé en compagnie de notre chroniqueur, le docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport.
Priorité santé sur RFI.
La leptospirose, non pas forcément connue de tout le monde, c'est bien pour ça qu'on en parle, que c'est important. Dans un pays comme la France, d'ailleurs, on entend plus souvent parler de cette maladie chez le vétérinaire que chez le médecin, Mathieu Picardeau, peut-être aussi en médecine du travail. Alors s'il fallait expliquer la leptospirose, on va dire pour les nuls, pour le grand public, pour moi par exemple aussi, qu'est-ce que c'est ?
Alors, comme vous l'avez dit dans votre introduction, donc c'est une infection bactérienne transmise principalement par les rongeurs. Et donc, c'est suite à un contact avec l'environnement, l'eau douce souillée par ces rongeurs, qu'on peut attraper la leptospirose. Et c'est ce qu'on appelait à l'époque, dans les années 80-70, la maladie des égoutiers. Hein. Et donc, c'est pour ça qu'à l'Institut Pasteur, il y a eu un vaccin qui a été développé à l'époque pour les égoutiers de la ville de Paris. Et donc c'est une maladie qu'on retrouve aussi principalement, en métropole évidemment, mais aussi et principalement dans les régions tropicales. Donc ça fait partie de ces maladies qu'on appelle les maladies négligées tropicales.
Alors pourquoi en zone tropicale? Est-ce que c'est parce qu'il y a davantage d'eau qui reste comme ça un petit peu à la portée de tout à chacun? Parce qu'il y a des conditions qui sont différentes en termes d'environnement ou peut-être aussi de vulnérabilité des personnes?
C'est un peu tout ça à la fois, c'est-à-dire que ça va toucher les populations les plus pauvres, hein, qui vivent dans les conditions sanitaires, notamment par exemple dans les bidonvilles. Dans les régions tropicales, on va retrouver donc des épidémies d'leptospirose régulièrement pendant la saison des pluies, où les gens sont plus en contact avec l'eau qui peut être souillée par ces rongeurs. Et puis donc la prise en charge qui est quasi inexistante dans la plupart de ces régions tropicales, où il n'y a même pas de diagnostic pour cette maladie.
Alors les êtres humains, on l'a compris, peuvent être atteints par la maladie, Mathieu Picardeau. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'agent infectieux qui provoque cette contamination?
Alors l'agent infectieux, ce sont les bactéries qu'on appelle les leptospires, et donc on va retrouver qui ont pour réservoir naturel, je vais dire, donc les rongeurs, notamment les rats, qui sont des porteurs asymptomatiques, c'est-à-dire qu'eux ne vont pas du tout être malades. Et lorsqu'ils sont porteurs, ils vont excréter la bactérie dans leurs urines et ainsi contaminer l'environnement. Et c'est là, après, où on a une transmission de la maladie à l'homme.
Alors, quand on veut justement identifier la maladie chez l'être humain, sur quoi repose le diagnostic ?
Alors, le diagnostic est compliqué, donc il faut déjà être sensibilisé par rapport
connaître
la maladie, connaître ce risque. En métropole, par exemple, on a des cas groupés régulièrement pendant l'été, des gens qui, une semaine après s'être baignés en eau douce, vont développer un syndrome grippal, donc une grosse grippe en plein été. Et donc là, s'ils vont voir leur médecin, ils peuvent penser donc à l'héptospirose. Et donc, dans ce cas-là, il peut y avoir un diagnostic défectué par différentes techniques de diagnostic qui restent compliquées et qui sont effectuées par peu de laboratoires à travers le monde et notamment dans les régions tropicales. Et si le diagnostic est effectué, un traitement antibiotique précoce peut guérir, peut permettre la guérison dans 100% des cas. Il n'y a pas de résistance connue aux antibiotiques pour cette bactérie.
Encore faut-il penser à dire, bah oui, je me suis baigné dans un lac. On ne pense pas forcément que c'est quelque chose qui peut être potentiellement dangereux.
Voilà, c'est ça. Et donc c'est là où, si il n'y a pas de diagnostic effectué de façon précoce et de traitement antibiotique, on a les formes les plus graves qui peuvent être aussi entraîner la mort.
Ça passe parfois, comme on dit, dans les trous de la raquette. Il peut y avoir une confusion entre la leptospirose et d'autres infections. Oui. Lesquelles, par exemple?
Oui, alors, notamment, encore une fois, dans les régions tropicales. Hein, donc, c'est un syndrome grippal qui va mimer en fait différentes autres infections qu'on va retrouver dans ces régions tropicales. Je pense au paludisme, à la dengue, qu'on peut retrouver en Afrique ou en Asie ou dans d'autres régions, qui ont vraiment les symptômes qui sont très proches. Je pense aussi au chikungunya qui est en ce moment à La Réunion. C'est des syndromes qui peuvent vraiment aussi être confondus avec une leptospirose.
Quand on dit qu'il y a des formes bénignes chez les humains, ça veut dire qu'on peut avoir un syndrome grippal et ça passe?
Oui. La plupart du temps, on n'a pas vraiment d'informations sur le nombre les cas les moins graves. Les cas qu'on dénombre aujourd'hui, c'est les cas qui sont les cas les plus sévères, qui sont hospitalisés. Lorsque vous parlez de 1 million de cas, c'est les cas qui sont hospitalisés. Mais on a très peu d'informations, de données sur les cas les moins graves qui, comme vous dites, vont se guérir par eux-mêmes.
Donc on ne peut pas dire qu'il y a tant de cas sur la planète, c'est impossible à dénombrer.
Non. Et de manière générale, c'est une maladie qui est largement sous-estimée du fait de l'absence de diagnostic dans la plupart des régions où cette maladie est endémique.
D'où l'importance d'en parler. Alors avant de continuer cet échange, on va se rendre sur votre lieu de travail.
RFI à Paris, 89 FM.
Et c'est Ophélie Lassène qui s'est rendue donc il y a quelques jours à l'Institut Pasteur de Paris, plus particulièrement au Centre National de Recherche, où vous exercez donc, Mathieu Picardeau. C'est l'un de vos collègues qui l'accueille et qui entame la visite.
Bonjour.
Alors bonjour, je m'appelle Jean-François Marié et je suis technicien supérieur en Centre National de Référence de la Leptospirose.
Qu'est-ce que vous allez nous montrer ?
Alors aujourd'hui, je vais vous montrer le chemin des échantillons qui nous arrivent de la part de nos laboratoires expéditeurs. Je vais vous expliquer après, par la suite, comment nous travaillons avec ces échantillons.
Je vous suis ?
Suivez-moi. Alors nous allons dans la pièce qui contient les congélateurs qui nous permettent de conserver les plasmas pendant plusieurs années. Et à l'intérieur, nous allons pouvoir retrouver des tubes qui contiennent les plasmas qui nous ont été adressés par l'hôpital de Mayotte aujourd'hui.
Ces plasmas, ils vous ont été envoyés. Dans quelles conditions on les envoie ?
Alors, l'envoi, qui se fait par courrier sécurisé, se fait à température soit 4 degrés, soit congelé à moins 20 degrés pour avoir une meilleure conservation des prélèvements biologiques.
Les patients à Mayotte, est-ce qu'ils ont déjà eu un diagnostic ou ils attendent d'avoir un diagnostic ?
Ils ont déjà eu un diagnostic qui est réalisé. L'hôpital de Mayotte est en maîtrise des techniques qui permettent de faire ce qu'on appelle la première intention. Nous allons confirmer, certes, le résultat de positivité. Et en plus, on va essayer d'aller un petit peu plus loin, en fait, dans la caractérisation de la bactérie pour, à terme, essayer éventuellement d'établir des liens épidémiologiques qui pourraient expliquer éventuellement la source de la contamination.
Donc on prend les échantillons et je vous suis ?
Et vous me suivez. Les échantillons sont conservés dans des enceintes qui sont fermées à clé, protégées. Alors vous avez sous les yeux des portoirs qui contiennent beaucoup de tubes. Donc en l'occurrence, quand on réalise le diagnostic de la leptospirose par réaction en microagglutination, nous croisons le sérum d'un patient, un tube, avec les 24 tubes qui correspondent à 24 antigènes différents. On va les laisser réagir ensemble pendant une heure et demie. Et par la suite, on va aller observer cette réaction au microscope à fond noir.
Les échantillons viennent du monde entier. Ils viennent d'où ?
Alors majoritairement, effectivement, on va recevoir, nous, des échantillons qui viennent d'outre-mer, parce que c'est vrai que la leptospirose est beaucoup plus présente outre-mer. Donc on va parler de Nouvelle-Calédonie, de Mayotte, de La Réunion, les Antilles. Beaucoup, effectivement, donc de France métropolitaine.
Qui vous envoie les échantillons ? Est-ce que c'est toujours des CHU ?
Alors, c'est majoritairement des CHU, mais en France, le diagnostic a été organisé de telle façon que finalement, ce sont maintenant les grands laboratoires qui vont faire, je dirais, c'est le plus gros, finalement, de ce diagnostic de première intention. Et enfin, nous collaborons aussi avec des centres vétérinaires
qui font aussi de la surveillance de leur côté, puisque effectivement, la leptospire est aussi partagée aussi bien par nos animaux de compagnie que par nous. Donc c'est vrai qu'il y a un partenariat qui existe entre le monde vétérinaire et le monde humain pour s'assurer qu'effectivement, il y a une surveillance qui soit efficace.
Et je vais me diriger vers la partie recherche où Mathieu Picardot nous attend devant sa paillasse.
En ce qui concerne la recherche, qu'est-ce qu'on essaye de savoir dans cette unité? Est-ce que c'est pour améliorer le diagnostic, améliorer le traitement ou juste mieux comprendre comment fonctionne la bactérie?
Elles sont très différentes des bactéries modèles que beaucoup de laboratoires de recherche étudient. Et donc étudier ces bactéries qui sont différentes des bactéries non modèles vont permettre de découvrir de nouveaux mécanismes qui n'ont jamais été étudiés jusqu'à maintenant. Un des projets qu'on a aussi au laboratoire, c'est de mieux comprendre pourquoi certaines souches sont beaucoup plus virulentes que d'autres, beaucoup plus pathogènes. Alors ici, on a des cultures de leptospire qu'on étudie ici au laboratoire. Et donc, on va regarder une goutte d'une de ces cultures et je vais vous faire voir la morphologie de ces bactéries au microscope.
Très bien, allons-y.
Alors, je prends une lame. Et on va aller au microscope, dans la pièce à microscope, pour la regarder à fort grossissement. Donc là, maintenant, je vais essayer de faire la mise au point. Mais où sont-elles?
Elles se cachent.
Elles se cachent. Donc là, vous pouvez voir sur l'écran qui est là, donc ces bactéries qui ont une forme en tire-bouchon. Donc elles partagent toute cette morphologie.
Une sorte de long et fin ressort.
Voilà, c'est ça. Et donc ces bactéries qui sont, comme vous pouvez voir ici, qui traversent le champ assez rapidement, c'est des bactéries qui vont disséminer assez rapidement aussi lors d'une infection, ce qui fait qu'elles vont être assez rapidement retrouvées un peu partout dans les organes. Et
donc quand vous la regardez comme ça au microscope, qu'est-ce que vous pouvez apprendre d'elle?
L'observation de la morphologie de la bactérie ne va pas permettre de savoir si c'est une souche qui est virulente ou pas virulente. Alors au laboratoire, on a un projet qui s'intéresse plus justement à qu'est-ce qui fait que ces bactéries sont très mobiles. Donc on essaye de muter certains gènes pour voir si ça va affecter la motilité de ces bactéries. Donc souvent ce qu'on regarde, ça va être plutôt la motilité, comment elles bougent, comment elles se comportent.
Donc vous créez des mutants ici?
On crée des mutants. Donc on fait beaucoup de génétique justement pour mieux comprendre la biologie de ces bactéries et quelle est la fonction de certains des gènes qui sont dans ces bactéries.
Reportage d'Ophélie Lassiane, on l'a entendu, hein, très concrètement, votre centre se concentre sur la recherche, pas sur les tests diagnostiques, c'est bien ça?
Il y a les deux aspects. Il y a l'aspect santé publique où on fait la confirmation du diagnostic et aussi on participe à des investigations épidémiologiques dans certains cas groupés par exemple. Et puis la partie recherche où on essaye plus recherche fondamentale, où on essaye de mieux comprendre comment fonctionne la bactérie.
Alors comment elle fonctionne, on a compris si elle bouge vite ou pas et puis si elle est forte ou pas. Est-ce qu'on sait pourquoi certaines espèces par exemple sont plus virulentes, plus redoutables?
Alors, on sait par exemple que la souche qu'on a retrouvée chez le rat, qui appartient au cérovare ictéro-hémorragier, est vraiment responsable des formes les plus graves. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout dans le monde. Donc, le rat qui est partout présent sur la surface du globe et qui porte cette souche la plus virulente est vraiment responsable des formes les plus graves. Alors, pourquoi cette souche en particulier, c'est quelque chose, ça fait partie des sujets de recherche du laboratoire.
Ça veut dire que si ça va être transmis par un autre rongeur ou un autre mammifère, peut-être que ce sera moins risqué. Il y a des vaches aussi qui peuvent transmettre la leptospirose.
Oui, mais ces vaches vont être souvent porter d'autres souches qui pourraient être moins virulentes. Alors ça, voilà, encore une fois, ça fait partie des sujets de recherche. Mais en tout cas, le cérovare ictéro-hémorragier qu'on va retrouver chez le rat est vraiment responsable des formes les plus graves, les cas mortels. Hein.
Donc c'est l'espèce et pas la géographie. Hein. Ça ne va pas être plus redoutable en Afrique subsaharienne qu'au nord de l'Europe, peu importe.
Pas forcément, non. Le rat qui est présent partout, il a la même souche qui est la plus virulente. Et après, ça va être la prise en charge qui va faire la différence, la prise en charge du patient.
Vous disiez tout à l'heure maladie des égoutiers. Donc, on peut imaginer qu'au-delà des animaux, par exemple en Europe, qui sont vaccinés, les chiens, donc on l'a dit, il y a certains métiers où l'on vaccine presque systématiquement aujourd'hui?
Par rapport à certaines catégories professionnelles.
Absolument.
Donc il y a les égoutiers, il y a... les gens les vétérinaires qui peuvent être exposés, forcément, les gens qui vont être en contact régulier avec l'eau douce, hein, je pense à certains pompiers, plongeurs ou gens qui travaillent dans le domaine de la pisciculture, par exemple.
Est-ce qu'il y aura aussi des sportifs? Je pense aux personnes qui travaillent du canyoning ou des choses comme ça, qui font du canoë-kayak.
Oui, alors kayak, oui, ceux qui font du kayak, mais vraiment...
De façon intensive.
De façon intensive, oui, oui.
Pour l'être humain, on l'a dit, c'est la plupart du temps bénin et il y a des complications. Est-ce qu'elles sont plus aiguës chez les chiens ou est-ce que c'est parce que les chiens sont plus souvent contaminés?
C'est une bonne question.
Je suis là pour poser les questions qui énervent.
Non, mais encore une fois, ça va dépendre de la souche. Hein, ouais. Déjà, en fonction de la souche pour laquelle le chien va être exposé, ça va dépendre. C'est multifactoriel. Hein, il y a les facteurs individuels, il va y avoir la charge bactérienne, le temps d'exposition à la bactérie. Il y a plusieurs facteurs qui vont expliquer que certaines formes évoluent vers des formes beaucoup plus graves.
Alors justement, quand on parle des formes graves, complications rénales en particulier, est-ce qu'on sait pourquoi la bactérie est redoutable pour cet organe ?
En tout cas, on sait que, encore une fois, pour revenir sur le modèle rat, c'est là où la bactérie va se nicher et va se multiplier. Quoi. C'est vraiment l'organe cible pour cette bactérie. Donc chez le rat, ça se passe très bien, mais chez les humains, par exemple, c'est là où on a des formes qui vont se compliquer, des atteintes hépatiques et rénales.
Atteinte hépatique, du foie, atteinte des reins, sous quelle forme ? Qu'est-ce que ça détruit dans ces organes ? Comment ça agit ?
Alors là, c'est des mécanismes aussi qu'on essaye de comprendre. Pour l'instant, encore une fois, il y a très peu de laboratoires à travers le monde qui travaillent sur cette maladie. Donc c'est des choses qui sont pour l'instant pas très connues ou pas du tout connues. Donc c'est là-dessus qu'on essaye de travailler.
Quand on vous écoute, on comprend que c'est quelque chose qui se retrouve partout dans le monde, qui peut être mortel, qui peut entraîner des séquelles redoutables pour la vie, qui peut aussi faire perdre des chiens, qui peuvent être utiles aussi pour une activité économique et puis pour l'affection, ça compte aussi. Alors comment ça se fait que finalement la leptospirose, on a l'impression qu'à part quelques chercheurs un petit peu forcenés, pas grand monde s'en soucie ?
C'est comme ça qu'on définit donc ces maladies négligées tropicales. Hein. Donc ça va toucher les populations les plus pauvres dans les régions tropicales, les populations les plus marginales. Donc il n'y a pas forcément de marché pour développer des nouveaux vaccins ou des nouveaux tests de diagnostic pour les compagnies pharmaceutiques, par exemple. Dans le milieu de la recherche, on est peu soutenu aussi par les agences gouvernementales ou non gouvernementales. Donc
c'est la logique économique qui prime, on peut dire là.
Oui. Dans ce que vous avez cité aussi, il faut aussi dire que d'un point de vue justement leptospirose animale, il y a aussi tout le secteur d'élevage aussi qui est touché, hein, notamment chez les bovins. Donc en Amérique latine, par exemple, ça peut être un gros problème.
Donc ça veut dire que là aussi, il y a un poids économique qui devrait être pris en compte.
Qui devrait être pris en compte, oui, tout à fait.
Mathieu Picard, on va poursuivre notre échange. On va donner la parole à des auditeurs de l'émission, puis à un de vos confrères de la Côte d'Ivoire après. Generation et O7 O'Shake avec Neosurf sur RFI. Priorité santé sur RFI, on parle de la leptospirose, maladie bactérienne transmise en particulier par les rats. Nous sommes toujours en studio avec Mathieu Picardo, responsable de l'unité biologie des spiroquettes et du Centre national de référence de la leptospirose à l'Institut Pasteur de Paris. Leptospirose, maladie à déclaration obligatoire depuis à peu près 2 ans en France. Pourquoi ?
Bah justement, c'est pour essayer de mieux comprendre comment les gens attrapent la leptospirose, alors principalement en métropole, parce que dans les territoires ou d'outre-mer, les gens sont déjà sensibilisés par rapport à cette maladie. Je pense à La Réunion, aux Antilles, en Nouvelle-Calédonie et ailleurs. Mais en métropole, on voulait faire un point, savoir un peu comment les gens attrapent la leptospirose en métropole.
Alors, pour bien comprendre, hein, parce qu'on dit peu repéré, peu recensé, on en parle peu, c'est une réalité. Si on dit la dengue, eh bien, la leptospirose, ça provoque 5 fois plus de décès que la dengue, alors que c'est vrai qu'on en parle beaucoup moins. Il y a beaucoup de travaux sur la dengue, oui. Il y a des recherches sur la vaccination, une campagne qui se prépare. Alors pourquoi, encore une fois, ce décalage ? C'est vraiment important de comprendre justement pourquoi on va, en recherche, en développement, privilégier plutôt certains secteurs que d'autres. Donc je vais faire un petit peu le mauvais esprit. Est-ce que c'est parce que au Nord, on a peur de la dengue demain qu'on met autant le paquet sur les investissements en recherche ?
Alors, pour ce qui est de la leptospirose, le principal problème, c'est encore une fois, on n'a pas une idée précise du nombre de cas. Hein. On parlait d'1 million de cas, 60 000 morts, mais c'est probablement largement sous-estimé. Il y a le problème du diagnostic qui reste compliqué. Encore une fois, il y a peu de laboratoires qui font le diagnostic, notamment dans les régions tropicales. Donc, on a peu de données vraiment pour faire du lobbying et montrer que la leptospirose est un problème de santé publique dans de nombreuses régions, telles que comme pour la dengue, par exemple. Et donc, il y a cette fameuse, justement, liste des maladies négligées tropicales de l'OMS, qui en compte une bonne quinzaine aujourd'hui, où la leptospirose ne figure toujours pas, parce que, justement, on n'a pas de données, notamment suffisantes d'un point de vue épidémiologique, et aussi pour contrôler cette maladie, éventuellement l'éradiquer dans le futur.
Quand un patient développe une forme grave, il va être pris en charge par quelle spécialité ? Infectiologie, néphrologie, médecine interne ?
Alors, ça va dépendre de l'état d'évolution de la maladie, mais oui, ça peut être tout ça, oui.
Et si le dépistage, si jamais on a la chance d'être dépisté, donc il est positif, est-ce qu'automatiquement on va être mis sous antibiothérapie ou pas forcément ?
Ah bah normalement, oui. Mmh. Après, faut que pas, même le traitement antibiotique, il est efficace au tout début de la maladie, quoi. Une fois que la maladie est bien avancée, ça va être compliqué, ça va pas se guérir aussi facilement.
Alors Mathieu Picardo, on va donner la parole à des auditeurs de l'émission. On part tout d'abord pour la République démocratique du Congo.
Priorité santé.
Parce que la santé est la priorité de tout le monde.
Et c'est à Kolwezi qu'on vous retrouve en ligne, Jackson. Jackson, bonjour.
Bonjour.
Alors Jackson, ce qui vous préoccupe, c'est la présence des rats dans votre environnement. Est-ce que vous pouvez nous décrire la situation chez vous à Kolwezi, s'il vous plaît ?
Ok, merci. Sinon, à Kolwezi, comme une zone tropicale, il y a à peine 2 ans que je suis là et que j'ai constaté aussi la présence vraiment abondante des rats. Et donc, de partout là, comme il y a beaucoup de milieux là avec des poubelles, et les rats là qui parviennent à entrer même dans des maisons. Et donc, en fait, il y a la présence de beaucoup de rats sur les milieux du Kolwezi.
Et ça veut dire qu'avant, vous étiez dans une autre ville de RDC, j'imagine, où vous étiez moins confronté à cette pullulation, à cette présence vraiment intense des rats ?
Bon, certainement, dans le milieu où j'étais, il y en avait, mais ce n'était pas vraiment aussi nombreux que dans la ville de Kolwezi, là où je vis pour le moment.
Ça veut dire qu'il y en a même à l'intérieur de chez vous, des rats ?
Oui, à l'intérieur de la maison, ça entre dans la maison, ça entre vraiment dans la maison. Et même dans des voitures, ça fait des maisons, leur nid là-bas.
Est-ce que vous observez que les gens essayent de s'en débarrasser ou finalement, les humains, ils font comme ça, ils vivent avec ?
Bon, on essaie de s'en débarrasser par plusieurs méthodes. On fait des pièges traditionnels. Il y a des médicaments contre, d'éradication contre les rats. Ouais, mais ce n'est pas du tout satisfaisant. Et puis, ça ne finit pas avec la... Donc, ce n'est pas satisfaisant.
D'accord. Donc, ça ne suffit pas à se débarrasser de ces rongeurs. Donc, vous n'aviez jamais entendu parler de la leptospirose, hein, c'est ça, Jackson ?
Ouais, c'est pour moi la première fois d'en attendre.
Ouais. Donc ça veut dire que, y compris quand on vit en zone tropicale comme en RDC, on peut ne jamais en avoir entendu parler, c'est tout à fait normal. Donc j'imagine que vous avez des questions au sujet de cette maladie. Je vous en prie, allez-y.
Ouais, certainement, je voulais poser deux questions.
Allez-y.
À savoir les symptômes que peut présenter le malade qui est malade de cette source-là des rats.
Oui.
Mais aussi la cause de cette maladie.
Ben, la cause de la maladie, Jackson, c'est un peu ce qu'on a expliqué depuis le début de l'émission. Les urines de rats qui contiennent, moi aussi j'ai appris beaucoup depuis le début, les urines de rats qui contiennent cette bactérie et la bactérie qui est en contact avec un être humain, que ce soit par le biais de l'alimentation, parce que là c'est vrai que si vous dites qu'il y en a même dans la maison qui rentrent dans les réserves de nourriture, c'est vraiment problématique. Ou bien quand on a une blessure, c'est ça, une lésion, ou quand on va dire... si on marche pieds nus, on a, on va dire, un bobo au pied, je pense à ça, en particulier pour les enfants, ils marchent dans une flaque d'eau, là, ils peuvent être contaminés, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport aux symptômes? Tout à l'heure, vous avez parlé de la fièvre. Est-ce qu'il y a, Mathieu Picardeau, d'autres signes qui doivent alerter les personnes?
Alors, non, c'est vraiment principalement un syndrome grippal, donc ça va être grosse fièvre, courbature, qui peuvent alerter sur le risque d'avoir leptospirose.
Si on dit on veut se débarrasser des rats à la maison, c'est vrai qu'on pense au blé empoisonné. C'est pas évident si on a soit des animaux domestiques, soit des enfants à la maison, parce que ça peut être dangereux. Qu'est-ce qu'on peut faire vraiment pour se débarrasser des rats?
Alors moi, je suis pas spécialiste des rats, mais je pense que c'est encore une fois c'est illusoire de d'éradiquer les populations de rongeurs, de rats. Après, on peut essayer de contrôler ces populations, donc éviter de, enfin, tout ce qui est déchets qui peut attirer les rats et les amener à sortir régulièrement. Je ne connais pas la situation en RDC, mais il faut savoir si cette bactérie, les leptospires qui sont responsables de la leptospirose, circulent. Est-ce que ces rats peuvent être porteurs de leptospirose? Juste pour revenir sur le continent africain, en fait, on a très peu d'informations en fait, sur la présence de la leptospirose, aussi bien chez l'homme que chez l'animal. Et il n'y a pas très longtemps, il y avait une revue qui était sortie où il y avait plus de la moitié des pays africains où on n'a aucune information sur la présence ou pas de la maladie dans ces pays-là. Donc,
tant que des groupes de recherche ne s'y attaquent pas, il n'y a pas moyen d'avoir d'infos.
Voilà.
On vous remercie beaucoup, Jackson, pour votre appel. Merci aussi pour votre curiosité. On part là pour la Guinée maintenant, précisément à Sangaredi. C'est dans le nord-ouest où on vous retrouve. Hamid, bonjour.
Oui, bonjour, vous allez bien?
Ça va bien, merci beaucoup. Alors vous, c'est votre métier, votre profession qui vous a poussé à nous joindre aujourd'hui. C'est quoi votre métier précisément, Hamid?
Oh, je suis technicien environnement, je travaille dans une équipe. Là, on fait le prélèvement d'eau et autres, et le traitement, la qualité de l'air et autres.
Vous travaillez sur l'eau douce, hein?
Oui, l'eau douce, oui, oui.
Et dans l'environnement où vous travaillez, est-ce que vous observez beaucoup d'animaux dans ces zones?
Oui, j'observe, il y a des moutons un peu partout, il y a des vaches, on a des écureuils aussi qui se promènent un peu partout parce que nous fréquentons les villages. Et dans le village, on trouve des jardins d'animaux un peu partout.
Vous avez des écureuils, des rats, est-ce qu'il y a d'autres petits rongeurs ou d'autres petits mammifères?
Oui, oui.
Il y a des singes également ou des chauves-souris?
Oui, il y a des chiens, il y a des chauves-souris aussi.
Est-ce que vous avez été vacciné contre certaines infections? Parce que c'est vrai que vous êtes exposé à des eaux sales et ça peut justement donner lieu à certaines maladies. Est-ce que dans le cadre de la prévention, la médecine du travail, on vous a informé de certains risques, Hamid?
Non, je ne suis pas informé de ces risques.
Malgré tout, quand vous travaillez, vous avez des protections pour protéger votre peau, vous mettre à l'abri de l'humidité et des eaux croupies?
Oui, on a des protections, mais parfois ça ne suffit pas parce qu'en manipulant l'eau, il y a des moments là où ça peut toucher une partie de ton corps sans faire exprès.
On peut comprendre tout à fait. Alors, jusqu'à présent, est-ce que vous avez des problèmes de santé?
Non, pour le moment, ça va.
Bah, tant mieux, Hamid. C'est une bonne nouvelle. Tout à l'heure, vous m'avez demandé comment ça va. Donc, je retourne la question. Comment ça va? Ça va bien. Parfait. Est-ce que vous aviez entendu parler de la leptospirose avant ça?
Non, je n'avais pas entendu parler.
Ouais. Donc, j'imagine que vous avez des questions. Je vous en prie, Hamid, allez-y.
Oui, ma question concerne quels sont les comment on appelle ça même, quels sont les symptômes liés à cette maladie et quels sont les risques liés à la manipulation d'eau.
Alors pour ce qui est des symptômes, hein, on a déjà parlé tout à l'heure, donc c'est vraiment la fièvre. Hein, donc encore une fois, ça peut ressembler à un palu ou d'autres maladies aiguës qu'on peut avoir dans ces régions-là. L'exposition à l'eau contaminée par l'urine de mammifères, de manière générale, hein, est un risque, hein, c'est sûr. Hein.
J'ai une question pratique.
Oui.
Quand on est comme ça, les mains dans l'eau, etc.,
oui.
Est-ce qu'il y a vraiment tout un avantage à aller bien se savonner une fois qu'on a travaillé? Est-ce que ça peut réduire le risque ou finalement le mal est fait?
On peut toujours, hein, ça ne peut pas faire de mal.
En tout cas, quand on a une blessure à la main, on évite.
Voilà. Mais après, voilà, si on sait, alors après, c'est des choses encore, on connaît très peu pour cette maladie, mais si on séjourne pendant un temps prolongé dans l'eau, on peut imaginer aussi que même sans lésion, la peau va devenir plus perméable aussi. Donc, en tout cas, voilà, tout ce qui est lésion au niveau de la peau, si possible, mettre des pansements pour éviter toute porte d'entrée pour la bactérie. Ça, c'est aussi une chose qu'on peut recommander.
Ça veut dire être vraiment vigilant quand on reste longtemps et si on a une blessure, on fait attention et on essaye d'utiliser des moyens pour se préserver, même des gants. Hein, ça peut être très utile, des gants en caoutchouc.
Bien sûr.
On peut imaginer des cuissardes aussi.
Et puis des lunettes pour éviter tout ce qui est projection aussi.
Dans les yeux.
Oui.
Vous avez ce genre d'équipement, bottes en caoutchouc, gants en caoutchouc, lunettes de protection, Amine?
Oui, on a ce genre d'équipement.
Moi, j'ai une question parce que souvent, les gens, ils ont des équipements, mais ils ne les mettent pas. Vous les mettez, vos équipements?
Oui, pour moi, c'est obligatoire, c'est une obligation.
Donc ça, c'est une très bonne chose. Bah, en tout cas, on vous remercie beaucoup parce que je pense qu'il y a pas mal d'autres personnes qui travaillent dans ce genre de conditions, qui peuvent aussi se poser les questions et vraiment leur dire s'ils ont des protections. Parce qu'en plus, ce n'est pas toutes les entreprises, ce n'est pas toutes les sociétés qui mettent à disposition ces protections. Vraiment, vraiment les utiliser. On vous remercie beaucoup. On part pour la Côte d'Ivoire.
RFI à Abidjan. 97.6 FM.
Et avec nous maintenant, Stéphane Koffi, bonjour.
Bonjour Caroline.
Un autre pasteurien, enseignant-chercheur à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, maître de conférences agrégé à l'Université Félix Houphouët de Boigny. Vous travaillez aussi, ça fait beaucoup, comme chef de service de bactériologie au CHU Trècheville. Est-ce qu'aujourd'hui on a des informations en Côte d'Ivoire sur la présence de la leptospirose, notamment chez l'humain?
Oui Caroline, en Côte d'Ivoire... La leptospirose, elle est présente et nous savons aussi que la plupart des cas ont été retrouvés au sud, à Abidjan et dans l'ouest du pays, mais rapportés à la population, le risque semble plus important dans la région ouest du pays.
Alors, des zones plus touchées que d'autres. Tout à l'heure, on a entendu Hamid, un autre auditeur de la Guinée, qui ne connaissait pas vraiment la leptospirose, alors que par sa profession, il pourrait être exposé. Est-ce que c'est la même chose chez vous, finalement? Cette maladie, elle n'est pas très connue du grand public?
Oui, cette maladie, elle est peu connue du grand public, mais aussi des praticiens de santé. Donc,
ça veut dire qu'il y a un travail à faire auprès des soignants pour les sensibiliser, notamment au nom de la maladie, mais aussi à certains symptômes.
Oui, il faut les sensibiliser. Mais les symptômes, comme l'a dit Mathieu, ils ne sont pas spécifiques.
Ouais.
Donc, il faut savoir y penser, surtout lorsqu'on n'a pas... pu confirmer notre étiologie.
Alors justement, comme les symptômes ne sont pas très clairs, il faudrait pouvoir faire un diagnostic. Qu'est-ce que vous avez chez vous à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en termes de tests diagnostiques? Qu'est-ce qui est disponible et qu'est-ce qui ne l'est pas?
Alors, en termes de diagnostic, nous avons la PCR, donc c'est de la biologie moléculaire, et nous avons aussi de la sérologie, c'est un test ELISA qui permet de détecter les anticorps anti-leptospire. Ce que nous n'avons pas, c'est la partie test de microagglutination, qui se fait à Paris, et c'est ce que Jean-François vous a présenté dans le reportage.
Dans le reportage tout à l'heure. Ça veut dire que quand vous avez des fois certains échantillons, ils prennent l'avion pour Paris, c'est ça?
Oui. J'en profite pour remercier Mathieu qui dirige ce laboratoire et qui nous fait ces confirmations.
C'est du travail d'équipe. On parle beaucoup de la transmission par les rats depuis le début de l'émission. Chez vous aussi, dans la plupart des cas, ce sont ces rongeurs qui sont en cause ?
Oui, oui. Ici, ce sont les rongeurs qui sont les plus touchés. Alors, on a des rats, surtout dans les grandes villes comme Abidjan. Mais on a aussi d'autres rongeurs dans les zones périurbaines et dans les forêts, dans tous les pays.
Alors moi, ça m'intéresse. C'est quoi ces rongeurs des forêts, c'est quoi, par exemple ?
On a, on va dire, des espèces autochtones.
Les agoutis, par exemple, ces vecteurs ?
Oui, oui, on a retrouvé des leptospires chez les agoutis, les agoutis ne semblent pas être les plus touchés.
Ouais.
On a les petits rongeurs du genre Praomys ou bien du genre Lophiromys, qui sont les deux principaux réservoirs.
C'est quoi, ça ressemble à des petits mulots, ces bestioles ?
Voilà, c'est ça. C'est encore plus petit que les mulots,
D'accord.
Ça vit dans les forêts.
Ça vit dans les forêts. Alors, vous avez mené, vous, avec une équipe de chercheurs, une étude bien spécifique sur un vecteur très connu dans la zone tropicale de maladies, de zoonoses. Ce sont les chauves-souris. Qu'est-ce que ces recherches vous ont enseigné ?
Alors, ces recherches nous ont montré que les chauves-souris, notamment ceux de la ville d'Abidjan que nous avons investigués, étaient porteurs de leptospires. Nous avons vu qu'il y avait des leptospires pathogènes et des leptospires non pathogènes qui circulaient dans cette population. Et on a une espèce qui est la petite roussette qui semble être celle qui est la plus contaminée par les espèces pathogènes.
Ça veut dire que, par exemple, quand les roussettes, elles vont dans les arbres, je pense aux manguiers, si elles urinent sur les fruits, ça peut être quelque chose de dangereux ou pas vraiment ?
Sur les fruits, je ne pense, c'est vrai qu'il va y avoir un risque, mais les leptospires ne survivent pas beaucoup dans l'environnement.
C'est plus dans l'eau, c'est ça ?
Voilà, c'est plus dans l'eau.
Donc, il y a un risque de contamination par ce biais des chauves-souris ou c'est pas établi ?
Nous n'avons pas travaillé sur le risque, mais les chauves-souris sont déjà bien connues pour être associées à plusieurs pathologies chez l'humain.
Alors, vous avez établi la présence sur ces animaux, les chauves-souris, les roussettes en particulier. Est-ce que ça débouche sur des mesures de prévention pour faire une diffusion auprès des populations ?
Alors, l'article a été publié ce mois-ci.
Oui, c'est tout récent.
Nous avons prévu de transmettre l'article aux autorités de santé pour qu'ils s'en servent pour la mesure de prévention.
Tout à l'heure, Mathieu Picardo insistait sur le caractère négligé de cette maladie. Est-ce que vous incarnez finalement une force de plaidoyer pour mieux faire connaître cette maladie, on va dire, au grand public, aux autorités de santé ? On peut même penser jusqu'à l'OMS.
Oui, oui. Nous faisons le plaidoyer à tous les niveaux. Nous avons déjà approché l'OMS parce que nous avons souhaité que la leptospirose puisse figurer sur la liste des pathologies sous surveillance parce qu'il y a déjà un réseau qui s'occupe de la surveillance de fièvre et donc on aurait souhaité pouvoir accéder à ce genre d'échantillons pour aussi rechercher la leptospirose. Les échantillons viennent de tout le pays, de tous les districts sanitaires et donc c'est vraiment des échantillons qui pourraient donner une bonne information de la situation de la leptospirose.
Et précisément, sera ma dernière question, comment faire passer cette information, ce message auprès des soignants de première ligne, je pense par exemple dans les centres ou les cases de santé ?
Et là, il faut organiser des formations et des campagnes de sensibilisation, ça c'est notre position. Pour l'instant, la sensibilisation que nous faisons, elle s'adresse principalement aux praticiens, donc aux sociétés savantes. Lorsqu'il y a des congrès, nous communiquons sur la maladie pour augmenter la sensibilisation et nous espérons qu'en retour et aussi autour d'eux, ils pourront relayer le message. Donc, il faut pouvoir descendre jusqu'à proximité des acteurs. Mais pour l'instant, vu que nous n'avons pas de diagnostic que nous pouvons déployer en périphérie, c'est un peu difficile d'aller leur dire qu'il y a un problème sans apporter de pistes et de solutions.
Sans avoir des moyens concrets, on l'a bien compris. Grand merci à vous, Stéphane Coffi, pour ces réponses. Est-ce que ça veut dire, par rapport à tout ce qu'on a expliqué et compris au cours de l'émission, Mathieu Picardo, s'il y avait une priorité, c'est de créer, d'inventer un test de détection rapide de la leptospirose ou matériellement, ce n'est pas possible?
Ah si, je pense que c'est tout à fait possible. C'est juste qu'on n'a pas les moyens d'arriver à ce test rapide. Il faut que ce soit un test qui soit aussi utilisable justement dans n'importe quelle région sans équipement.
Comme ce qu'on a pu faire pour le PALU.
Voilà, oui.
Un test au lit du patient, comme on dit, au chevet du patient. En conclusion, on parle souvent de l'incidence du réchauffement climatique sur les maladies tropicales, les maladies en général. Est-ce que c'est vrai aussi pour la leptospirose?
Oui, tout à fait. Ça fait partie. Donc, alors, c'est une maladie qu'on considère comme réémergente, et notamment du fait du changement climatique, avec l'apparition de plus en plus fréquent de cyclones, d'ouragans qui vont être responsables d'inondations. C'est aussi le changement démographique aussi important, qui peut expliquer l'augmentation du nombre de cas de leptospirose, notamment ces régions où il y a des bidonvilles, où il y a de plus en plus de gens qui vivent dans ces bidonvilles, dans les régions tropicales, pendant la saison des pluies. Tout ça, ce sont des facteurs qui vont être responsables de nombreux cas de leptospirose.
Et qui devraient inciter les pouvoirs publics à s'y intéresser de beaucoup plus près, notamment en investissant dans la recherche. Un grand merci à vous. Merci pour ces réponses. On va parler activité physique. Ce sera juste après l'OJ, Somebody Like You sur RFI.
Summertime in Abuja, I'm pulling you closer, your head on my shoulder, I know feel the cover. I'm on a submission, I know we used to be lovers, lovers. We live in the simpler days when we had no shame in abundance. I'm on a condition, what if I gave you love to my ceiling? What if I bought you a couple more reasons? All of the texts I sent to your siblings. Not only me, no, what did I'm feeling? Too many times I showed you my shine. Maximum pain and maximum healing. I pray I find me a spiritual woman. But if I don't, I'll use all my time just looking around for somebody like you. Somebody just like you. I need somebody just like you. To keep it secret, nothing way too bad if we're rolling up trees. Girl, I'ma need me a couple more drinks. Sorry, what told you if you need me one call, but you say you scared your commitment. What if I gave you love to my ceiling? What if I bought you a couple more reasons? All of the texts I sent to your siblings. Not only me, no, what did I'm feeling? Too many times I showed you my shame. Maximum pain and maximum healing. Pray I find me a spiritual woman. But if I don't, I'll use all my time just looking around for somebody like you. Somebody just like you. I need somebody just like you. Know my life I've been chasing. Somebody like you. Somebody just like you. I need somebody just like you.
Maintenant, dans Priorité Santé, on parle santé et activité physique avec un aspect souvent négligé du sport, son intégration au sein des activités familiales. Pour en parler, bien sûr, le médecin du sport de l'émission, spécialiste, Dr Jean-Marc Sen, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors, les auditeurs, les auditrices le savent, vous êtes un grand, grand défenseur de cette pratique sportive régulière adaptée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est précisément important d'intégrer ce sport dans les routines de la famille et comment est-ce qu'on peut faire pour y arriver?
Eh bien, Caroline, faire du sport en famille, c'est vrai que ce n'est pas seulement une manière de rester en forme, mais c'est aussi intéressant parce que ça permet d'améliorer la communication et puis le partage entre justement les générations. Alors la première chose, c'est que ça renforce les liens familiaux par le sport, parce que en fait, on peut travailler notamment l'esprit d'équipe, ça joue un rôle également de renforcement dans les relations familiales, donc ça, c'est quelque chose de très positif. Au-delà de l'esprit d'équipe, ça renforce également la communication, puisque ça nécessite évidemment d'avoir des interactions entre les participants, ça permet de renforcer des liens, pourquoi pas faire passer passer des messages, c'est vraiment intéressant. Et puis il y a des moments privilégiés, évidemment, on passe du temps ensemble, quand on va faire ce sport, on va partager des expériences, on va faire des bons souvenirs qui vont être gravés dans la mémoire. Et puis c'est aussi une façon de transmettre des valeurs, hein. Les adultes peuvent montrer aux plus jeunes comment il faut suivre certaines règles, comment c'est important de respecter l'autre à travers le sport.
Mais attention, pas trop de compétition, parce qu'il y a aussi des messages justement pour prévenir ces papas qui des fois sont un petit peu amenés à pousser les enfants, notamment sur les stades, pour en faire des champions. Tout ça, ça reste quelque chose d'amateur et dans le plaisir.
Bien sûr, papa ou maman, d'ailleurs, quelquefois, l'idée c'est d'être effectivement dans le plaisir et intergénérationnel. Ça, c'est vraiment important pour pouvoir tisser ces liens forts, durables, à travers la transmission, évidemment, des différentes générations. Et puis, encore une fois, l'idée, c'est de créer des souvenirs joyeux, des moments où on peut sourire, où il y a des rires, où il y a du plaisir. Et ça, c'est vraiment important de faire ça en famille.
Maintenant, Dr Sen, du côté des recommandations, est-ce qu'il y a des activités spécifiques qui sont chères à votre cœur? En fonction de l'âge des enfants, des compétences des parents, qu'est-ce que vous proposez?
Alors, effectivement, l'important, c'est de s'adapter, hein, l'adaptabilité. Évidemment, on va avoir pour les plus jeunes des activités plutôt ludiques, courtes, évidemment, qui sont préférables. Et puis, dès qu'on va être avec des adolescents ou des jeunes adultes, pourquoi pas essayer des sports qui demandent un peu plus d'endurance, un peu plus de technique. Évidemment, on va adapter tout ça en fonction de l'âge de l'enfant. Et puis, il faut savoir que faire du sport ne nécessite pas obligatoirement de sortir de la maison, hein. À l'intérieur, on peut tout à fait faire des choses absolument intéressantes. Il suffit de quelques accessoires. D'abord, il y a Internet maintenant, hein. On peut avoir des cours en ligne de gymnastique, de renforcement musculaire, de tai chi, de pilates. Tout ça, c'est vraiment intéressant. Pourquoi un petit jeu de fléchettes, ça, c'est amusant. Ou de la Zumba, tout ça, on peut faire ça à l'intérieur de la maison. Le tennis de table, oh, les parties de ping-pong, ont c'était souvenirs extraordinaires. Là aussi, ça peut être amusant. Et pourquoi pas même faire on était aux Jeux Olympiques, pourquoi pas faire une Olympiade? Voilà différentes petites épreuves qui font monter, pourquoi pas, tout en jouant et en souriant, l'adrénaline. C'est vraiment l'occasion de rire tous ensemble.
Et puis bien sûr, des activités d'extérieur.
Et oui, par exemple, bon, alors bah, le vélo, le fameux vélo, bien sûr, c'est l'occasion de faire une promenade. On peut faire un exercice physique, découvrir évidemment l'extérieur et découvrir des paysages absolument magnifiques. On peut faire du yoga aussi en plein air pour profiter du calme, de la nature, ou pourquoi pas des randonnées qui sont tout à fait adaptables, de plus ou moins grande distance, plus ou moins grande difficulté. Et tout ça, vraiment, c'est l'occasion de faire du sport en famille, en fonction des goûts de chacun, et de recréer ou de développer la cohésion et le bien-être familial. Avec tout ça, on finira pas d'entendre « Tonton, on fait un foot ?»
Et pourquoi pas faire un foot avec vous, Jean-Marc Sen. Merci beaucoup. À très bientôt dans Priorité Santé. Priorité Santé, c'est fini. Merci à toute l'équipe aux manettes. Demain, on va parler des allergies, facteurs, symptômes, prise en charge. On se donne rendez-vous à 9h10, temps universel. D'ici là, restez à l'écoute et surtout, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé. Téléchargez MySounou pour souscrire ou gérer vos assurances et MySounou Banque pour votre compte bancaire.